Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le réveil culturel. À la radio tôt le matin ou quand vous voulez, en passant par le podcast. Tous les vendredis, c'est l'actualité de la bande dessinée. Et aujourd'hui, Blutch et son frère Robert sont mes invités à l'occasion de la sortie de leur reprise des aventures de Tiff et Tondu. Mais où est Kiki ? C'est le titre de la bande dessinée éditée par Dupuis. Et puis en fin d'émission, on parlera aussi de l'exposition Lévis Trondheim fait des histoires. C'est à la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême jusqu'au 1er mai pour nous en parler. Thierry Grunstein, historien et théoricien de la bande dessinée.
Le réveil culturel. Vendredi, bande dessinée.
Qui se souvient de Tiff et Tondu et pourquoi un grand dessinateur contemporain comme Blutch a-t-il décidé de ressusciter ce duo d'enquêteurs né à la fin des années 30 dans le magazine Spirou et disparu il y a quelques décennies, presque dans l'indifférence générale. Bonjour Blutch, bonjour Robert.
Bonjour. Bonjour.
Mais quelle drôle d'idée de reprendre Tiff et Tondu.
C'est une idée qui remonte à loin, Toufik, parce que moi, je m'intéresse, et Tiff et Tondu m'intéresse au plus haut point depuis, on va dire, que j'ai découvert les premiers albums il y a une bonne quarantaine d'années. J'étais, je demeure un lecteur de Tiff et Tondu.
Toutes périodes confondues.
Ouais. Mais surtout celles, évidemment, qui ont été animées par le grand dessinateur Will. Donc, on va dire de la fin des années 40 jusqu'au début des années 90. Avec plusieurs scénaristes qui se sont succédés, mais moi, le dessin de Will a toujours fait ma joie. Pour le situer, il fait partie des grands anciens de l'école de Marcinelle. Donc, il y a eu ses mousquetaires, Franquin, Robat, Peillot, il y a eu Jigé, okay, voilà, bon. Lui, il est un peu en seconde ligne. Il est un peu négligé, mais pour moi, je le place en premier plan. J'ai toujours été sensible à son trait, à sa manière, on va dire. Donc, Tiff et Tondu sont toujours à portée de main, et je les ai relus au fil des années, régulièrement, pour le plaisir.
Mais ce n'est pas une reprise classique dans le sens où ce ne sont pas des héros populaires.
Non.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Mais moi, c'est ce qui me plaisait aussi dans cette entreprise. C'est parce que Tiff et Tondu sont oubliés, négligés.
Mais est-ce qu'ils ont eu un âge d'or ou de gloire, Tiff et Tondu? Ils n'ont jamais atteint le statut des super-héros de la bande dessinée, ces deux enquêteurs.
Je pense que c'était une série à succès quand même. Mmh. Dans les années 60, 70. D'abord parce que l'auteur, Will, s'est attaché à... Il a aligné les albums, je pense que ça devait marcher, parce que sinon, il ne l'aurait pas permis d'aligner autant de volumes. Et non, je pense que c'était une bonne série de fond de la Maison Dupuis, du journal Spirou, de ce qu'on appelle la grande époque, les années 60, 70. Il a été... Je veux dire, il portait cette, supporté Tiff et Tondu. Lorsqu'il a fini à la fin des années 80, début 90, il en pouvait plus de Tiff et Tondu. Ça a été repris après brièvement par d'autres auteurs pendant 5-6 ans, et puis la série est tombée en désuétude, dans l'oubli, et le dernier album paru date de 1997. Donc ça fait quasiment 25 ans qu'il n'y a pas eu de livre qui reprenne et qui représente ces deux personnages, ces deux figures antiques. Vous avez dit qu'ils avaient été créés en 38, ce qui est vraiment, c'est la préhistoire de la bande dessinée. Enfin, c'est vraiment la première génération de héros franco-belges. Et d'ailleurs, ils portent sur leur visage ces stigmates de ces temps primaires, parce qu'ils sont vraiment, ils n'ont aucune psychologie à la base. Hein. C'est vraiment deux figures vraiment très très schématiques, presque des Playmobil, hein. Ils sont interchangeables.
Et pour vous, Blutch, c'était une manière de continuer cette séquence d'hommage, de relecture au grand maître de la bande dessinée après l'album Variation. Vous avez décidé de rendre hommage à quelques auteurs qui ont été importants pour vous. Là, vous vous mettez à faire une véritable reprise et du coup, c'est votre première bande dessinée dans le style aventure.
Oui. Notre cher et estimé directeur artistique, Philippe Guilmetti, m'avait dit, à un moment donné, pendant qu'on travaillait, il m'a dit, bah, tu vois, c'est ta première BD. Et peut-être, oui, c'est ma première bande dessinée véritable. J'allais dire enfantine, bêtement, j'allais dire au premier degré.
Et suite à Variation, suite à cette série d'hommages, de relectures?
Tout ça est né à peu près en même temps, parce que moi, je travaille déjà sur cette histoire, Mais où est Kiki? Lorsque j'ai entamé Variation, j'ai mis de côté Mais où est Kiki pendant un an pour travailler sur ce livre Variation. On va dire que ce volume de Tif étendu, c'est peut-être ma dernière variation. Ma variation à l'échelle 1, c'est-à-dire sur un album entier, avec une histoire qui se déroule de A à Z. Alors que Variation, c'était juste des fragments de récits classiques, plus ou moins fameux. Enfin, tous fameux, mais en tout cas plus ou moins célèbres. Mais Tif étendu, oubliés, comme ils sont oubliés, bah, moi je les ai trouvés disponibles. Est bien plus inspirant pour moi que si on m'avait proposé de travailler sur un Spirou et Fantasio, qui sont visités, rebattus, et usés, à mon sens, jusqu'à la corde. Alors que là, il y avait un vide, quelque chose à remplir. Et j'ai retrouvé un carnet assez ancien. Je tiens le crachoir, je suis désolé. J'ai retrouvé un carnet vraiment ancien, hein, du début des années 90. Où déjà j'ai vu que je faisais des petits crayonnés et j'esquissais des tifs étendus vieillis. Et surtout, je dessinais cette fameuse Kiki là, qui me plaisait beaucoup. J'avais un peu le béguin pour elle, hein, quand même.
Et c'est vrai qu'elle est très jolie, on va en parler. Mais alors, le fait de décider de travailler avec votre frère Robert, c'est pour retrouver un peu votre enfance, cette enfance où vous lisiez peut-être tous les deux Tif étendu?
Bah nous, on a été lecteurs acharnés, hein, ouais. De Tif étendu.
Bien sûr.
Robert qui parle.
Allez. Ah bah oui, je laisse parler Blatch, il parle tellement bien.
C'est le grand frère. Hein.
C'est le grand frère, on le laisse causer. Et puis, parce que comme pour les BD, je passe après. Et quand on était petit, c'était comme ça. Hein, dès que la BD, elle tombait par terre, moi, je passais derrière. Et je lisais ce que lui lisait, enfin, ce que lui avait lu. Et Tif étendu, bien sûr... Je sais pas, ils ont au même titre que tous les autres, Castérix, Lucky Luke, Tintin, ils ont évidemment... Moi j'ai lu Sortie des Abîmes, je sais pas, 1000 fois, je le lis encore. C'est le seul que je lis encore. Je l'ai encore lu la semaine dernière.
Pour quelle raison?
Je trouve l'histoire... C'est une histoire que j'aurais aimé écrire, par exemple. Je trouve l'histoire de cette bestiole qui grandit dans les égouts de Londres. Je trouve cette histoire passionnante, toujours d'ailleurs.
Mais alors, justement, comment présenter Tif étendu aujourd'hui, en 2020? Qui est Tif? Qui est étendu? Qui sont Tif étendu?
Là, je laisse parler le scénariste.
Tif, c'est le glabre, et étendu...
C'est le chauve.
C'est le barbu.
Ah bah non, c'est le contraire.
Mais tout le monde se trompe.
Tout le monde
moi-même,
se trompe.
Hein, je me trompe. Ouais.
Mais moi aussi, régulièrement. Et ils sont romanciers.
Grâce à vous ou depuis que
non,
vous avez
grâce
repris.
À nous.
Ouais, parce qu'ils ont vécu des années et des décennies en étant juste des aventuriers enquêteurs. Personne ne connaissait, je pense que personne ne connaissait vraiment ce qu'ils faisaient. Et vous avez eu l'idée géniale, et je dirais pourquoi, de leur inventer un boulot, c'est-à-dire auteur de polar.
Alors je mets un petit bémol. Oui, il en avait parlé, je crois, dans les années 60.
Ah oui,
il avait dit qu'ils étaient écrivains, mais
non,
sans
c'est,
tellement
c'est
plus.
Esquissé, genre à un moment, pardon. Pardon, Robert, à un moment, il faut qu'ils écrivent leur mémoire, je crois, dans un album ancien. Alors, il faut qu'on se mette à écrire nos mémoires, et je crois que c'est ça qui m'a donné l'idée de les rendre vraiment complètement écrivains.
Oui, c'est une idée de Blutch. Qu'il soit romancier, c'est une idée de Blutch.
Et comme vous-même, vous êtes auteur de polar, on peut le dire, Robert?
On peut le dire, oui.
Vous êtes auteur de polar ou pas? Parce que...
Pas édité, mais j'écris depuis longtemps.
Des polars?
Des polars, entre autres. Non, tout, même des haïkus, si vous voulez. Mais tout ce qui me...
Vous dites que vous n'êtes pas publié, mais du coup, si, grâce à Tif étendu, vous
Absolument.
Êtes publié, parce que vous avez eu cette idée géniale d'écrire d'abord le roman de Tif étendu, et puis ensuite la bande dessinée racontera la suite de comment ce livre de Tif étendu sorti va être accueilli, et comment il va être à l'origine d'une nouvelle aventure avec des rebondissements. Et là, on rentre vraiment dans la charte de Tif étendu, c'est-à-dire de l'enquête, des rebondissements, un zeste de fantastique qui vient brouiller tout ça.
Alors ça encore, toutes les idées géniales, elles sont jamais de moi. C'est une idée de notre éditeur d'écrire le livre. Et je l'écris après. Après avoir écrit le scénario du Tiffé Tondu.
Ouais, parce qu'il faut préciser que la bande dessinée débute sur une séance de dédicaces où nos héros signent leur dernier ouvrage. Mmh. Et c'était l'idée de José-Louis Bouquet, notre éditeur. Il a dit, pourquoi on n'écrirait pas vraiment ce roman? Le roman dont il est question dans la bande dessinée. Donc il a été écrit après coup. Mon frère était ravi de cette idée de rédiger réellement ce roman. Donc on se retrouve...
Et de le faire finir là où commence, exactement là où commence la BD. Voilà, c'est ma seule bonne idée. Non, j'exagère, mais c'est une bonne idée.
Avec Blotch et son frère Robert. L'autre idée de cette reprise de Tiffé Tondu, mais où est Kiki chez Dupuis, je le rappelle, c'est l'époque. Vous avez décidé que cette histoire devait avoir comme époque les années 80. Pourquoi, Robert?
Pour m'affranchir des portables, c'était plus facile. Pour faire du suspense, c'est plus facile de faire du suspense quand il n'y a pas de portable.
Et ça, c'est une idée de vous? Vous avez discuté avec votre grand frère en disant, est-ce que vous aimez dessiner des cabines téléphoniques? Est-ce que vous vous souvenez des cabines téléphoniques? Non?
Oh, mais il a plein de docs, ça, les cabines téléphoniques. C'était pas le souci. C'était plus les voitures, les hélicos, les camions Ben, tout ça. Je pense qu'il en a bien, il a bien souffert. Non, c'est une idée de moi tout seul. Mais une fois qu'on m'a dit, écrit ce scénario, je me suis débrouillé. J'ai pas demandé l'avis de Blotch. Enfin, je lui ai donné un produit fini.
Et ça devenait un défi pour vous, Blotch?
Ah ouais, bien sûr. Oui, une part de jeu, hein, une part de jeu enfantin presque.
Ouais, parce moi, qu'on les a connus les années 80.
C'est pas, c'est mes 20 ans. J'avais évidemment pas mal d'idées derrière la tête lorsque j'ai proposé à mon frère de travailler sur cette histoire, parce que d'abord je m'en sentais incapable d'écrire un récit, on va dire, dit classique, structuré, avec une intrigue. Et comme je sais que c'est l'encyclopédie vivante du polar et du roman noir, et qu'il écrit lui-même des romans, et qu'il a le snobisme de pas publier, de pas présenter, je suis un des seuls lecteurs de mon frère depuis des années, donc je trouvais vraiment que c'était une richesse qui se perdait. Alors je lui ai dit, mais écris-moi une BD. En plus, je connais son penchant pour la saillie, le trait, la réplique, le dialogue. Donc j'étais sûr que ça ferait merveille dans une BD, cet esprit qu'il a.
Comment vous avez travaillé ensemble?
Alors, comment on a travaillé ensemble? Je vais vous le dire, c'est très facile. On ne s'est rien dit, on ne s'est pas parlé. On n'a pas besoin tellement de se parler, parce qu'on se connaît très bien. Parce qu'on est à peu près d'accord sur tout. Ça s'est présenté sous la forme d'une grande nouvelle, d'une quarantaine de pages. C'est-à-dire que j'ai reçu cette nouvelle, déjà solidement dialoguée. Et donc j'ai travaillé à partir de cette nouvelle. Je l'ai découpée. J'ai transformé cette nouvelle en bande dessinée.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Avec Blotch et son frère Robert, pour parler de cette reprise des aventures de Tiff et Tondu, mais oui, Kiki qui apparaît. Donc on se dit, voilà. Blotch et Robert ont profité de cette reprise pour laisser un peu plus de place aux femmes, aux héroïnes. En fait, non, c'est un faux semblant. Hein. Elle est au centre de la couverture, elle est au centre de l'intrigue, mais elle n'est pas aussi active que les bonhommes, que les Tiffes et Tondus. Robert?
Non, elle se fait enlever. Donc c'est difficile quand on est enfermé quelque part, bien sûr, d'être actif, mais...
Ouais, c'est un personnage que moi, elle joue pour beaucoup dans l'attrait que j'ai pour Tiffé Tondu, à vrai dire. Déjà enfant, jeune lecteur, j'étais vraiment attiré par cette femme, Kiki, la comtesse Amélie Dieu, parce que c'est tout le contraire d'une potiche. Je trouvais qu'elle avait du chien, Et il y avait vraiment quelque chose qui se dégageait sous le trait de Will quand il représentait cette femme. Enfin, en tout cas, à mes yeux. Et c'est pour une grande part, certainement, ce qui m'a attiré aussi dans une relecture des aventures de Tiff et Tondu, c'est la présence de Kiki, qui a été créée par Maurice Tilleux, en tournant des années 69-70. Donc, pour les gens qui la connaissent pas, moi je la trouve végétale. Et on dirait un petit peu un genre de Mireille d'Arc. Hein, une espèce de blondeur comme ça. Donc elle fait très 20e siècle, hein, fin du 20e siècle. Et oui, elle est, c'est une grande. C'est vraiment pour moi, c'est une grande part de l'attrait que j'ai pour Tiff et Tondu. Maintenant, je me faisais une joie de la représenter, de la dessiner. Et ça a été une souffrance, vraiment. J'ai pas réussi. Je trouve que j'ai pas réussi à la choper. Autant j'ai réussi à habiter même Tiff et Tondu, à les représenter, à les jouer, autant elle m'a échappé tout le long. Alors que pour moi aussi, ça a été un peu mais où est Kiki, hein. Ouais.
Et vous avez l'explication
Elle est dure. Nous, dans notre jargon, souvent, dessinateur, on dit « Est-ce que tu tiens ton personnage ?» Et je ne la tenais pas, en fait. Alors elle penche un peu vers Mireille d'Arc des fois, puis après elle va vers Monica Vitti, et puis après... Même des fois, j'ai un peu la Deneuve de Belle de Jour, et puis ça. Enfin voilà, il n'y a pas de. Elle est flottante, elle est mouvante.
Vous donnez beaucoup de références, alors que dans l'aventure, ça fait d'ailleurs le charme de cette aventure de Tiff et Tondu, c'est que vous n'avez pas cherché à bourrer de références des années 80. Il n'y a pas toutes les musiques, tous les écrivains, tous les hommes politiques. Vous êtes resté vraiment dans un esprit intemporel.
Il y a quelques références,
ouais,
de Paul Lucelizer, oui. Ce genre de choses.
On parle d'une éditrice qui ressemble effectivement à ce qu'on a connu dans les années 80.
Ouais,
on parle du Minitel.
Il s'agit pas de
bourrer, de revisiter les années 80.
Non.
Il s'agit pas de bourrer de références, juste d'évoquer vaguement. Oui, si je préfère ça, bien sûr, un peu de finesse.
À qui s'adresse cette aventure de Tiff et Tondu? Je dis ça parce que avant la sortie de cet album, enfin, en couleur, c'est-à-dire dans sa version classique, il y a eu ses cahiers en noir et blanc, c'est-à-dire tous vos fans, vos admirateurs, Blotch, sont rués vers cette version noir et blanc, donc ce sont les amateurs de votre trait, de votre dessin. Et est-ce que vous voulez, avec cette version en couleur, vous adresser à un autre public?
Oui, certainement, oui, bien sûr. Oui. Ah bah oui, je serais assez content. En fait, je travaille pas, j'ai pas de cible. J'ai pas de plan, de stratégie. Je travaille à l'envie, et à vrai dire, je travaille pour moi. Mais si je suis lu par les jeunes, les vieux, les petits, les grands, les femmes, les hommes, ça m'irait parfaitement. Mais c'est en second lieu, en fait. Tout d'abord, je pense qu'on a travaillé pour nous. C'est-à-dire, comme on disait un jeu, comme quand on était gamin, on a essayé de recréer une intimité ou un jeu ou enfantin, voilà, hein, un petit peu quand même.
Vous avez retrouvé ça, Robert ?
Oui, bien sûr. Oui. Mais je pensais à lui, moi. Enfin, moi, je travaille pour épater ma femme, mais bon, c'est un autre sujet. Ouais. Non, mais je pensais à lui. En écrivant le scénar, je pensais à lui.
Ouais, on pensait à nous, c'est-à-dire...
Au grand frère qu'il était quand vous étiez enfant, puis... ou à Blotch d'aujourd'hui
Les deux. Non, je pensais à notre enfance, à toutes nos lectures.
C'est ce que je voulais dire. Aux lecteurs qu'on était aussi. Quand je dis pour nous, c'est aussi les lecteurs qu'on était. C'est-à-dire qu'on a travaillé pour les lecteurs qu'on était aussi, je pense.
Et pourquoi c'est Paris et pas Strasbourg, allez, pour terminer?
Je ne suis même pas posé la question. J'ai vu Paris. Je sais pas.
Les aventures du Tiff et Tondu se déroulent à Paris.
Souvent, ils voyagent pas mal.
Je pense que la rédaction bruxelloise de Spirou, je pense insister pour que les aventures des héros se passent en France, parce que le lectorat était plutôt français. C'est pour ça que l'agent Lontarin dans Gaston Lagaffe, il a un uniforme de poulet français, donc et non pas de flic belge. Donc je pense que ils insistaient, je pense à l'époque, à ce que les héros vivent leurs aventures en France. Donc c'est pour ça que pour moi, Tiff et Tondu, c'est pour moi, une série parisienne, vraiment.
Mais où est Kiki ? L'aventure de Tiff étendue par Blutch et Robert est édité par Dupuis. Le réveil culturel sur France Culture, tous les vendredis, l'actualité de la bande dessinée. La semaine dernière, nous étions au Festival d'Angoulême et ça a été une occasion pour découvrir la première exposition consacrée à Lewis Trondheim. Lewis Trondheim fait des histoires, c'est à la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême, jusqu'au 1er mai. Pour nous en parler ce matin, notre invité, l'historien et théoricien de la bande dessinée, Thierry Grunstein. Thierry Grunstein, Lewis Trondheim, ça y est, il rentre dans le monde des musées de la bande dessinée.
Ben oui, enfin, une grande rétrospective consacrée à cette œuvre pléthorique. Songez que son nom apparaît sur 180 livres et c'est pas terminé. Et Lewis Trondheim, je pense que c'est vraiment l'auteur qui est au carrefour de toutes les évolutions de la bande dessinée moderne. Il n'y a pas de genre auquel il ne se soit essayé. Il s'est lancé toutes sortes de défis. Et puis, à Angoulême, il faut bien dire que on a une dette envers lui, puisque le fauve, la mascotte du festival, c'est quand même lui qui l'a créé il y a 12 ans. Et donc, depuis tout le monde l'a adopté.
Depuis le Grand Prix d'Angoulême.
Il avait été Grand Prix d'Angoulême, oui, en 2006. Donc, président en 2007, mais cette année-là, il n'avait pas eu la grande exposition qui est traditionnellement consacrée au président.
Pourquoi ?
Parce qu'il n'avait pas souhaité, il n'était pas très content de son dessin à cette époque-là, et puis d'une façon générale, il se considère plus, ce qui est vrai, comme un raconteur d'histoire, un brillant dialoguiste, comme tout le monde le sait, que comme un très grand dessinateur. Donc il pense que son travail n'est pas fait pour tenir le mur, mais plutôt pour être lu.
Comment il a évolué, Trondheim ?
Eh bien, ce qui est très intéressant dans son cas, c'est que c'est un dessinateur autodidacte qui, au départ, parce qu'il se sent incapable de dessiner, photocopie toujours la même case et se contente de changer le texte dans les bulles, puis se lance dans cette aventure incroyable de Lapineau et les carottes de Patagonie, un album de 500 pages complètement improvisé qu'il n'avait pas l'intention de publier, qui était pour lui un simple exercice destiné à lui apprendre à dessiner et à maîtriser les codes de la bande dessinée. Bon, finalement, ça a quand même été publié avec succès. Incidemment, ça lui a permis de créer son personnage le plus célèbre, Lapineau. Mais depuis, ce qui est très intéressant, c'est qu'il ne cesse d'essayer de s'améliorer, de progresser. Et par exemple, il a entamé la série des Petits Riens pour apprendre la technique de l'aquarelle. C'est ça sa motivation première. De la même façon que depuis quelques années, il s'astreint tous les 15 de chaque mois à prendre quelques heures pour faire un dessin d'observation. Un dessin sur le motif extrêmement précis, extrêmement descriptif, donc complètement à l'opposé du style plutôt simple et linéaire qu'on lui connaît.
Et puis enfin, on peut terminer par Lewis Trondheim comme rédacteur en chef, comme éditeur de bande dessinée.
Ben oui, il est à la fois toujours membre du comité de rédaction, enfin le comité éditorial de l'association dont il est un des fondateurs, et en même temps il est directeur de collection chez Delcourt, donc il a un pied dans l'édition indépendante, un pied dans la grande édition.
Et qu'est-ce qu'il impulse, Lewis Trondheim ? C'est quoi son esprit ?
Ce qu'il aime, c'est d'être surpris. Ce qu'il aime, c'est le jeu. C'est tout ce qui présente une dimension ludique. Il aime aussi mettre le pied à l'étrier de jeunes auteurs. Il se sent une sorte de responsabilité vis-à-vis de la génération suivante. Il aime bien ce rôle de passeur. Et puis, c'est quelqu'un qui privilégie souvent le dessin-écriture par rapport aux grands dessins académiques très élaborés, etc. Donc, voilà. Il a fait connaître pas mal de gens comme Boulet, par exemple, qui vient de la sphère des blogs, etc., qui avait ça en commun avec lui.
Et puis enfin, pour terminer, les influences de Lewis Trondheim. Est-ce que c'est quelqu'un qui est venu avec, dans l'esprit, l'envie de rompre avec tous les grands noms de la bande dessinée d'avant, ou est-ce qu'on peut y déceler, dans sa manière de dessiner, ou dans son approche de la bande dessinée, des influences Thierry Grunstein?
Oui, on peut, et d'ailleurs, c'est amusant, parce que c'est seulement ces deux dernières années qu'il a rendu hommage aux auteurs de chez Disney en scénarisant pour Elena, un album de Mickey, un album de Donald. Et en fait, je crois que les plus grandes influences qu'il ait subies au début de sa carrière, c'est celle de Karl Barks, le grand dessinateur de Donald, et un petit peu derrière, Floyd Gottfredson, le grand dessinateur de Mickey. Donc, il a lu et relu leurs histoires étant adolescent, il les connaît par cœur, et c'est vraiment, je pense, sa conception de bande dessinée, elle vient de là.
Merci Thierry Grundstein. Donc je rappelle, l'exposition Lewis Trondheim fait des histoires, c'est à la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême, jusqu'en mai 2020. Et la nouvelle aventure de Tiff étendu, la reprise de Tiff étendu par Blutch et Robert, intitulée « Mais où est Kiki ?», c'est édité par Dupuis. Passez un bon week-end, on se retrouve lundi à la même heure.